4-13 Commission militaire et commission mixte. Il arriva des aventures à la justice. Ce vieux mot prit un sens nouveau. Le code cessa d'être sûr. La loi devint quelque chose qui a prêté serment à un crime. Louis Bonaparte institua des juges par lesquels on se sentit arrêté comme au coin d'un bois. De même que la forêt est complice par son épaisseur, la législation fut complice par son obscurité. Ce qui lui manquait à certains endroits pour qu'elle fût tout à fait noire, on le lui ajouta. Comment ? De force, purement et simplement, par décret, sic jubeo. Le décret du 17 février fut un chef-d'œuvre. Ce décret compléta la proscription de la personne par la proscription du nom. Domitien n'eût pas trouvé mieux. La conscience humaine fut déconcertée. Le droit, l'équité, la raison, sentirent que le maître avait sur eux l'autorité qu'un voleur a sur une bourse. Pas de réplique, obéissez. Rien ne ressemble à ces temps infâmes. Toutes les iniquités furent possibles. Des corps législatifs survinrent et mirent dans la législation tant d'ombre qu'il fut aisé de faire avec cette obscurité de la noirceur. Un coup d'État réussi ne se gêne pas. Ce genre de succès se permet tout. Les faits abondent, mais nous devons abréger. Nous ne les présentons qu'en raccourci. Il y eut deux espèces de justice, les commissions militaires et les commissions mixtes. Les commissions militaires jugeaient à huis clos. Un colonel présidait. À Paris seulement, il y avait 3 commissions militaires. Chacune reçut 1000 dossiers. Le juge d'instruction envoyait les dossiers au procureur de la République, Lascoux, lequel les transmettait au colonel président. La commission faisait comparaître l'accusé. L'accusé, c'était le dossier. On le fouillait, c'est-à-dire on le feuilletait. L'acte d'accusation était bref, 2 ou 3 lignes. Ceci, par exemple. Nom, prénom, profession. Homme intelligent. Va au café, lit les journaux. Parle. Dangereux. L'accusation était laconique. Le jugement était moins prolixe encore. C'était un simple signe. Le dossier examiné, les juges consultés, le colonel prenait une plume et mettait au bout de la ligne accusatrice l'un de ces 3 signes. Moins, plus, 0. Moins signifiait envoi à Lambessa. Plus signifiait déportation à Cayenne. La guillotine sèche, la mort. 0 signifiait acquittement. Pendant que cette justice travaillait, l'homme sur lequel elle travaillait était quelquefois encore libre. Il allait et venait tranquille. Brusquement, on l'arrêtait, et sans savoir ce qu'on lui voulait, il partait pour Lambessa ou pour Cayenne. Sa famille souvent ignorait ce qu'il était devenu. On demandait à une femme, à une sœur, à une fille, à une mère, « Où donc est votre mari ? Où donc est votre frère ? Où donc est votre père ? Où donc est votre fils ?» La femme, la sœur, la fille, la mère répondaient, « Je ne sais pas. » Une seule famille dans l'Allier, la famille Prévereau, du donjon, a eu 11 de ses membres frappés, 1 de la peine de mort, les autres du bannissement et de la déportation. Un marchand de vin des Batignolles, nommé Brisadou, a été déporté à Cayenne pour cette ligne de son dossier. Son cabaret est fréquenté par les socialistes. Voici un dialogue exact et saisi sur le vif entre un colonel et son condamné. « Vous êtes condamné. Ah ça, pourquoi ? Ma foi, je ne le sais pas trop moi-même. Faites votre examen de conscience. Voyez ce que vous avez fait. » « Moi ? Oui, vous. Comment ? Moi ? Vous devez avoir fait quelque chose. Mais non, je n'ai rien fait. Je n'ai pas même fait mon devoir. J'aurais dû prendre mon fusil, descendre dans la rue, haranguer le peuple, faire des barricades. Je suis resté chez moi, platement, comme un fainéant. » L'accusé rit. « C'est de cela que je m'accuse. »« Ce n'est pas pour cela que vous êtes condamné. Cherchez bien. » »« Je ne trouve rien. » »« Quoi ? Vous n'avez pas été au café ? » Si, j'ai déjeuné. Vous n'avez pas causé ? Si, peut-être. Vous n'avez pas ri ?
J'ai peut-être ri.
De qui ? De quoi ?
De ce qui se passe, c'est vrai, j'ai eu tort de rire.
En même temps, vous parliez ?
Oui.
De qui ?
Du président.
Que disiez-vous ?
Parbleu, ce qu'on peut dire, qu'il avait manqué à son serment.
Ensuite, qu'il n'avait pas le droit d'arrêter les représentants.
Vous avez dit cela ?
Oui.
Et j'ai ajouté qu'il n'avait pas le droit de tuer les gens sur le boulevard.
Ici, le condamné s'interrompt et s'écrie « Et là-dessus, on m'envoie à Cayenne !»
Le juge regarde fixement le condamné et répond « Eh bien ?»
Autre forme de la justice. Trois individus quelconques, trois fonctionnaires destituables, un préfet, un soldat, un procureur, ayant pour conscience le coup de sonnette de Louis Bonaparte, s'asseyaient à une table et jugeaient.
Qui ?
Vous, moi, nous, tout le monde. Pour quels crimes ?
Ils inventaient les crimes.
Au nom de quelle loi ?
Ils inventaient les lois.
Quelle peine appliquaient-ils ?
Ils inventaient les peines.
Connaissaient-ils l'accusé ?
Non.
L'entendaient-ils ?
Non.
Quels avocats écoutaient-ils ?
Aucun.
Quels témoins interrogeaient-ils ?
Aucun.
Quels débats engageaient-ils ?
Aucun.
Quel public appelaient-ils ?
Aucun.
Ainsi, ni public, ni débat, ni défenseur, ni témoin, des juges qui ne sont pas des magistrats, un jury où il n'y a pas de juré, un tribunal qui n'est pas un tribunal, des délits imaginaires, des peines inventées, l'accusé absent, la loi absente. De toutes ces choses qui ressemblent à un songe, il sortait une réalité, la condamnation des innocents, l'exil, le bannissement, la déportation, la ruine, la nostalgie, la mort, le désespoir de 40 000 familles. C'est là ce que l'histoire appelle les commissions mixtes. D'ordinaire, les grands crimes d'État frappent les grandes têtes et se contentent de cet écrasement. Ils roulent comme des blocs, tout d'une pièce, et broient les hautes résistances. Les victimes illustres leur suffisent. Mais le 2 décembre eut des raffinements. Il lui fallut en outre les victimes petites. Son appétit d'extermination alla jusqu'aux pauvres et jusqu'aux obscurs. Il eut de la colère et de l'animosité jusqu'en bas. Il fit des fêlures au sous-sol social pour y infiltrer la proscription. Les triumvirats locaux, dits « mixtions mixtes », lui servirent à cela. Pas une tête, même humble et chétive, n'échappa. On trouva moyen d'appauvrir les indigents, de ruiner les mœurs de faim, de dépouiller les déshérités. Le coup d'État fit ce prodige d'ajouter du malheur à la misère. On eût dit que Bonaparte prenait la peine de haïr un paysan. Le vigneron fut arraché de sa vigne, le laboureur de son sillon, le maçon de son échafaudage, le tisserand de son métier. Des hommes acceptèrent cette mission de faire tomber en détail sur les plus imperceptibles existences l'immense calamité publique, hideuse besogne, émiettée sur les petits et sur les faibles une catastrophe. 4.14. Détails religieux. Un peu de religion peut se mêler à cette justice. Voici un détail. Frédéric Morin était, comme Arnaud de l'Ariège, un républicain catholique. Il pensa que les âmes des victimes du 4 décembre, brusquement jetées par la mitraille du coup d'État dans l'infini et dans l'inconnu, pouvaient avoir besoin d'un secours quelconque. Et il entreprit cette chose laborieuse, faire dire une messe pour le repos de ces âmes. Mais les prêtres entendent garder les messes pour leurs amis. Le groupe des républicains catholiques que dirigeait Frédéric Morin s'adressa successivement à tous les curés de Paris. Refus. Il s'adressa à l'archevêque. Refus. Des messes pour l'assassin tant qu'on voudra, mais pour les assassinés, jamais. Prier pour des morts de cette espèce, ce serait un scandale. Le refus s'obstina.
comment se tirer de là? Se passer de la messe eût paru facile à d'autres, mais non à ces croyants opiniâtres. Les dignes catholiques démocrates en peine finirent par déterrer dans une toute petite paroisse de la banlieue un pauvre vieux vicaire qui consentit à chuchoter tout bas cette messe à l'oreille du bon Dieu, en le priant de n'en rien dire. 4.15. Comment on sortit de Ham? Dans la nuit du 7 au 8 janvier, Charras dormait. Le bruit de ses verrous tirés le réveilla. « Tiens, dit-il, on nous met au secret. » Et il se rendort. Une heure après, la porte s'ouvre. Le commandant du fort entre, en grand uniforme, accompagné d'un homme de police portant un flambeau. Il était environ 4 heures du matin. « Colonel, dit le commandant, habillez-vous tout de suite. »« Pourquoi faire ? Vous allez partir. Encore quelques infamies, probablement. » Le commandant garde le silence, Charras s'habille. Comme il achevait de s'habiller, survient un petit jeune homme vêtu de noir. Ce jeune homme adressa la parole à Charras. « Colonel, vous allez sortir de la forteresse. Vous allez quitter la France. J'ai ordre de vous faire conduire à la frontière. » Charras s'écria, « Si c'est pour quitter la France, je ne veux pas quitter la forteresse. C'est un attentat de plus. On n'a pas plus le droit de m'exiler qu'on a eu le droit de m'emprisonner. J'ai pour moi la loi, le droit, mes vieux services, mon mandat. Je proteste. Qui êtes-vous, monsieur ? Je suis le chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. Ah, c'est vous qui vous appelez Léopold de Lehon. » Le jeune homme baissa les yeux. Charras continua. « Vous venez de la part de quelqu'un qu'on appelle ministre de l'Intérieur, monsieur de Morny, je crois. Je connais ce monsieur de Morny. Un jeune chauve. Il a joué le jeu où l'on perd ses cheveux. Maintenant, il joue le jeu où l'on risque sa tête. » La conversation était pénible. Le jeune homme regardait beaucoup la pointe de ses bottes. Après un silence, il se hasarda pourtant à prendre la parole. « Monsieur Charras, j'ai ordre de vous dire que si vous aviez besoin d'argent... » Charras l'interrompit impétueusement. « Paix là, monsieur! Pas un mot de plus. J'ai servi mon pays 25 ans, sous l'épaulette, au feu, au péril de ma vie. Toujours pour l'honneur, jamais pour le gain. Gardez l'argent, vous autres. Mais, monsieur, silence ! L'argent qui touche à vos mains salirait les miennes. » Il se fit encore un silence que le chef du cabinet particulier rompit encore. « Colonel, vous serez accompagné de 2 agents. Qui ont des instructions spéciales. Et je dois vous prévenir que vous voyagerez par ordre, avec un faux passeport, et sous le nom de Vincent. « Ah, pardieu ! » s'écria Charras. « Voilà qui est fort. Qui est-ce qui s'imagine qu'on me fera voyager par ordre, avec un faux passeport, et sous un faux nom ?» Et regardant fixement M. Léopold de Lehon, « Sachez, monsieur, que je m'appelle Charras, et non Vincent. » Et que je suis d'une famille où l'on a toujours porté le nom de son père. » On partit. On fit le trajet en cabriolet jusqu'à Creil, où passe le chemin de fer. À la gare de Creil, la première personne qu'aperçoit Charras, c'est le général Changarnier. « Tiens, c'est vous, général ?» Les 2 proscrits s'embrassèrent. Tel est l'exil. « Que diable font-ils de vous ? » dit le général. « Ce qu'ils font de vous, probablement. » « Ces chenapans me font voyager sous le nom de Vincent. »« Et moi, » dit Changarnier, « sous le nom de Leblanc. »« Ils auraient dû au moins m'appeler le Rouge, » s'écria Charras en éclatant de rire. Cependant, un cercle, tenu à distance par les agents, s'était formé autour d'eux. On les avait reconnus et on les saluait. Un jeune enfant que sa mère ne put retenir courut vivement jusqu'à Charras et lui prit la main. Ils montèrent en wagon, libres en apparence, comme les autres voyageurs. Cependant, on les isola dans des compartiments vides, et chacun d'eux était accompagné de 2 hommes qui s'asseyaient à côté et en face de lui et qui ne le quittaient pas du regard. Les gardiens du général Changarnier étaient, comme force et comme taille, les premiers hommes venus. Ceux de Charras étaient des espèces de géants. Charras est de très haute taille, il le dépassait de toute la tête. Ces hommes, qui étaient des argousins, avaient été des carabiniers. Ces espions, avaient été des braves.
Charras les questionna. Ils avaient servi tout jeunes, dès 1813. Ainsi, ils avaient partagé le bivouac de Napoléon. Maintenant, ils mangeaient le même pain que Vidocq. C'est une triste chose qu'un soldat déformé à ce point. La poche de l'un d'eux était gonflée par quelque chose qu'il y cachait. Au moment où cet homme traversait la gare accompagnant Charras, une voyageuse dit « Est-ce qu'il a M. Thiers dans sa poche ?» Ce que l'agent cachait, c'était une paire de pistolets. Sous leurs longues redingotes boutonnées et croisées, ces hommes étaient armés. Ils avaient ordre de traiter ces messieurs avec le plus profond respect, et dans un cas donné, de leur brûler la cervelle. Les prisonniers avaient été prévenus, individuellement, qu'ils passeraient près des autorités diverses qu'on rencontrerait en route pour des étrangers, suisses ou belges, expulsés à raison de leurs opinions politiques, et que les agents conserveraient leur qualité d'agent et se présenteraient comme chargés de reconduire ces étrangers jusqu'à la frontière. Les deux tiers du trajet se firent sans encombre. À Valenciennes, incident. Le coup d'État ayant réussi, le zèle régnait. Il n'y avait plus de basse besogne. Dénoncer, c'était plaire. Le zèle est une des formes de la servitude vers lesquelles on se penche le plus volontiers. Le général faisait le soldat, le préfet faisait le commissaire de police, le commissaire de police faisait le mouchard. Le commissaire de police de Valenciennes présidait à la visite des passeports. Il n'aurait voulu pour rien au monde laisser cette haute fonction à un inspecteur subalterne. Au moment où on lui présenta le passeport du nommé Leblanc, il considéra le nommé Leblanc entre les deux yeux, fit un mouvement et s'écria « Vous êtes le général Changarnier !»« Cela ne me regarde pas, » dit le général. Sur ce, les deux gardiens du général se récrient et exhibent leurs papiers fort en règle. « Monsieur le commissaire, nous sommes agents du gouvernement. Voyez nos propres passeports. »«
Malpropre, » dit le général.
Le commissaire hoche la tête. Il avait été employé à Paris et avait été souvent envoyé à l'état-major, aux Tuileries, près du général Changarnier. Il le connaissait fort bien.
« Voilà qui est fort !» crient les agents.
Ils se démènent, déclarent qu'ils sont fonctionnaires de police en mission spéciale, qu'ils ont ordre de conduire à la frontière ce Leblanc, expulsé pour cause politique, jurent leur grand Dieu et donnent leur parole d'honneur que le nommé Leblanc se nomme Leblanc.
« Je ne crois pas beaucoup aux paroles d'honneur, » dit le commissaire.
« Honnête commissaire, » grommela Changarnier, « vous avez raison. Depuis le 2 décembre, les paroles d'honneur et les serments ne sont plus que des assignats. » Puis il se mit à sourire. Le commissaire était de plus en plus perplexe. Les agents finirent par invoquer le témoignage même du prisonnier.
« Mais, monsieur, dites-vous même votre nom.
Tirez-vous de là, » répondit Changarnier. Tout cela n'était rien moins que correct pour un alguazil de province. Il semblait évident au commissaire de Valenciennes que le général Changarnier s'échappait de Ham sous un faux nom, avec un faux passeport et de faux agents de police pour donner le change, et que c'était un complot d'évasion qui était au moment de réussir.
« Descendez tous trois !» crie le commissaire.
Le général descend, et en mettant pied à terre, aperçoit Charras au fond de son wagon entre deux estafiers.
« Tiens, vous êtes là, Charras »
dit-il.
« Charras ?» s'écrie le commissaire. « Charras est là ! Vite, les passeports de ces messieurs !»
Et regardant Charras en face,
« Est-ce que vous êtes le colonel, Charras ?»«
Pardieu !» dit Charras.
Complication. C'était le tour des estafiers de Charras de se démener. Il déclare que Charras est le nommé Vincent, étale passeports et papiers, jure et proteste. Le commissaire sent tous ses soupçons confirmés. « Fort bien, dit-il, j'arrête tout le monde. » Et il remet Changarnier, Charras et les quatre agents aux gendarmes. Le commissaire flairait la croix d'honneur dans le lointain. Il était radieux. La police empoignait la police. Il arrive parfois que le loup croit saisir une proie et se mord la queue. On introduit dans une salle basse du débarcadère les six prisonniers, car maintenant il y avait six prisonniers.
le commissaire prévient les autorités accourent, le sous-préfet en tête. Le sous-préfet, nommé Censier, entre et ne sait pas s'il doit saluer ou questionner, se coucher à plat ventre ou garder son chapeau sur la tête. Ces pauvres diables de magistrats et de fonctionnaires locaux étaient fort embarrassés de leur contenance. Le général Changarnier avait été assez près de la dictature pour les rendre pensifs. Qui sait les événements? Tout est possible. Hier s'appelait Cavaignac, aujourd'hui s'appelle Bonaparte, demain s'appellera Changarnier. Le bon Dieu est cruel de ne pas laisser entrevoir au sous-préfet le petit bout de l'oreille de l'avenir. C'est triste pour un respectable fonctionnaire qui ne demanderait pas mieux que d'être servile ou arrogant à propos, d'être exposé à prodiguer des platitudes à un personnage qui va peut-être pourrir à jamais dans l'exil et qui n'est plus qu'un drôle, ou de risquer de faire des insolences à un brigand de proscrit qui est capable de rentrer vainqueur d'ici à 6 mois et d'être à son tour le gouvernement. Que faire? Et puis, on est espionné. Entre fonctionnaires, cela se fait. Le moindre mot sera commenté. Le moindre geste sera décrit. Comment ménager à la fois ce chou qui s'appelle aujourd'hui et cette chèvre qui s'appelle demain? Trop questionné froissera le général. Trop salué choquera le président. Comment être à la fois beaucoup sous-préfet et un peu laquais? Comment combiner l'air de servitude qui plaira à Changarnier avec l'air d'autorité qui plaira à Bonaparte? Le sous-préfet crut se tirer d'affaire en disant « Général, vous êtes mon prisonnier » et en ajoutant avec un sourire « Faites-moi l'honneur de venir déjeuner chez moi ». Il adressa les mêmes paroles à Charras. Le général refusa, laconiquement. Charras le regarda fixement et ne lui répondit pas. Des doutes sur l'identité des prisonniers vinrent au sous-préfet. Il demanda tout bas au commissaire « Êtes-vous bien sûr ?»« Parbleu !» dit le commissaire. Le sous-préfet prit le parti de s'adresser à Charras et, mécontent de son accueil, lui demanda assez sèchement « Mais enfin, qui êtes-vous » Charras répondit « Nous sommes des colis » et, se tournant vers ses gardiens, à leur tour gardés, « Adressez-vous à nos expéditeurs, interrogez nos douaniers, affaire de transit. » On fit jouer le télégraphe électrique. Valenciennes, effaré, questionna Paris. Le sous-préfet prévint le ministre de l'Intérieur que, grâce à une surveillance pour laquelle il ne s'en fiait qu'à lui-même, il venait de faire une importante capture, qu'il venait d'éventer un complot, de sauver le président, de sauver la société, de sauver la religion, etc., etc., qu'en un mot, il venait de saisir le général Changarnier et le colonel Charras, évadés le matin du fort de Ham avec de faux passeports, sans doute pour se mettre à la tête d'un soulèvement, etc., etc., et qu'enfin, il demandait au gouvernement ce qu'il fallait faire des deux prisonniers. Au bout d'une heure, la réponse arriva. Laissez-les continuer leur chemin. La police s'aperçut que, dans un élan de zèle, elle avait poussé la profondeur jusqu'à la bêtise. Cela arrive quelquefois. Le convoi suivant emmena les prisonniers remis, non en liberté, mais à leurs gardiens. On passa Quiévrain. On descendit de wagon, puis on y remonta. Quand le convoi repartit, Charras poussa le profond soupir joyeux d'un homme délivré et dit « Ah, enfin !» Il leva les yeux et aperçut ses deux geôliers à côté de lui. Ils étaient montés derrière lui, dans le wagon. « Ah ça !» leur dit-il, « c'est vous ?» De ces deux hommes, il n'y en avait qu'un qui parlait. Celui-ci répondit « Mais oui, mon colonel. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Nous vous gardons. »« Mais nous sommes en Belgique. »« C'est possible. »« La Belgique n'est pas la France. »« Ah, cela se peut. » »« Mais si je mettais la tête hors du wagon, si j'appelais, si je vous faisais arrêter, si je réclamais ma liberté. » Vous ne feriez pas tout ça, mon colonel. Comment feriez-vous pour m'en empêcher? L'agent montra le pommeau d'un pistolet et dit « Voilà ». Charras prit le parti d'éclater de rire et leur demanda Mais où donc me lâcherez-vous ?
À Bruxelles.
C'est-à-dire qu'à Bruxelles, vous me tirerez un coup de chapeau, mais à Mons, vous me tireriez un coup de pistolet.
Comme vous dites, mon colonel.
Au fait, dit Charras, cela ne me regarde pas. C'est l'affaire du roi Léopold. Le Bonaparte traite les territoires comme il a traité les représentants. Il a violé l'Assemblée, il viole la Belgique. Mais c'est égal, vous êtes tous un ramassis d'étranges coquins. Celui qui est en haut est fou, ceux qui sont en bas sont stupides. C'est bon, mes amis, laissez-moi dormir.
Il s'endormit, en effet.
La même aventure à peu près était arrivée presque au même instant aux généraux Changarnier et la Moricière et à M. Baz. Les agents ne quittèrent le général Changarnier qu'à Mons. Là, ils le firent descendre du convoi et lui dirent « Général, c'est ici votre lieu de séjour. Nous vous laissons libre. »
« Ah, dit-il, c'est mon lieu de séjour et je suis libre. Eh bien, bonsoir. »
Il remonta lestement dans le wagon au moment où le train repartait, laissant là les deux argousins ébahis. La police lâcha Charras à Bruxelles, mais ne lâcha pas le général Lamoricière. Les deux agents voulaient le forcer de repartir immédiatement pour Cologne. Le général, qui souffrait d'un rhumatisme gagné à âme, leur déclara qu'il coucherait à Bruxelles. « Soit, dirent les agents. » Ils le suivirent à l'hôtel de Bellevue. Ils y passèrent la nuit avec lui. On eut beaucoup de peine à les empêcher de coucher dans sa chambre. Le lendemain, ils l'emmenèrent et le conduisirent à Cologne, violant le territoire de Prusse après avoir violé le territoire de Belgique. Le coup d'État fut plus impudent encore envers M. Baz. On fit voyager M. Baz avec sa femme et ses enfants sous le nom de La Salle. Il passait pour le domestique de l'agent de police qui le conduisait. On le mena ainsi à Aix-la-Chapelle. Là, au beau milieu de la nuit, au beau milieu de la rue, les agents le déposèrent sans passeport, sans papier, sans argent, lui et toute la famille. M. Baz, indigné, fut obligé d'en venir à la menace pour obtenir qu'il le conduisisse et qu'il le nommasse un magistrat quelconque. Il entrait probablement dans les petites joies de Bonaparte de faire traiter un questeur de l'Assemblée comme un vagabond. Dans la nuit du 7 janvier, le général Bedeau, quoiqu'il ne dût partir que le lendemain, fut réveillé comme les autres par le bruit de ses verrous. Il ne comprit pas qu'on l'enfermait, et crut au contraire qu'on élargissait M. Baz, son voisin de cellule. Il cria à travers la porte « Ah, bravo, Baz !»
Tous les jours, en effet, les généraux disaient au questeur « Vous n'avez que faire ici. C'est une forteresse militaire. On vous mettra dehors un de ces beaux matins, comme Roger du Nord. »
Cependant, le général Bedeau entendait dans la forteresse un bruit inusité. Il se leva et frappa le général Leflot, son autre voisin de cellule, avec lequel il échangeait de fréquents dialogues militaires peu obligeant pour le coup d'État. Le général Leflot répondit au frappement, mais il n'en savait pas plus long que le général Bedeau. Le général Bedeau avait une fenêtre sur la cour intérieure du donjon. Il alla à cette fenêtre et y vit des lanternes qui allaient et venaient, des espèces de carrioles attelées et une compagnie du 48e sous les armes. Un moment après, il vit arriver dans la cour le général Changarnier, qui monta en carriole et partit. Quelques instants s'écoulèrent, puis il vit passer Charras. Charras l'aperçut à sa fenêtre et lui cria « Mons !» Il croyait aller à Mons, en effet, et c'est ce qui fit dire que le lendemain, le général Bedeau choisit Mons pour ses jours, croyant y rencontrer Charras. Charras partit, M. Léopold de Léon survint, accompagné du commandant du fort, salua Bedeau, expliqua sa mission et se nomma. Le général Bedeau se borna à lui dire « On nous bannit, c'est une illégalité et une indignité, ajoutez aux autres. Au reste, avec les gens qui vous envoient, on ne compte plus. » On ne le fit partir que le lendemain. Louis Bonaparte avait dit « Il faut espacer les généraux. » L'homme de police chargé d'escorter le général Bedeau jusqu'en Belgique était un de ceux qui, le 2 décembre, avaient arrêté le général Cavaignac.
il conta au général Bedeau qu'ils avaient eu un moment d'inquiétude en arrêtant le général Cavaignac. Les 50 hommes de piquet commandés pour assister la police ayant fait défaut. Dans le compartiment du wagon qui emportait le général Bedeau en Belgique, il y avait une femme, évidemment du monde, de la figure la plus distinguée, et accompagnée de 3 petits-enfants. Un domestique en livrée, qui semblait allemand, avait 2 des enfants sur ses genoux et leur prodiguait 1000 petits soins. Du reste, le général, caché par la nuit et enfoui comme les agents sous le collet de son manteau, faisait peu d'attention à ce groupe. Quand on fut à Quiévrain, la voyageuse se tourna vers lui et lui dit « Monsieur le général, je vous fais compliment, vous voici en sûreté ». Le général remercia et lui demanda son nom. « La baronne Coppens, » dit-elle. On se souvient que c'est chez M. Coppens, rue Blanche, 70, qu'avait eu lieu le 2 décembre la première réunion de la gauche. « Vous avez là, madame, » reprit le général, « de charmants enfants, » et il ajouta, « et un bien bon domestique. »« C'est mon mari, » dit Mme Coppens. M. Coppens, en effet, était resté 5 semaines, comme enseveli dans une cachette pratiquée chez lui. Il s'évadait de France, cette nuit-là même, sous sa propre livrée. On avait bien fait la leçon aux petits-enfants. Le hasard les avait fait monter dans le même wagon que le général Bedeau et les 2 estafiers qui le gardaient. Et s'avait été toute la nuit, en présence de ces hommes de police, une terreur de Mme Coppens, que quelqu'un des marmots réveillés ne sauta au cou du domestique en disant « Papa ».